Si ma chère femme, je libère les bénédictions du Seigneur sur ta vie. avant de faire le pont avec ce que Magda vient de dire, je voudrais juste revenir sur l'histoire du léopard et de la biche de la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Mais alors, qui des deux Dieu a-t-il exaucé? Avez-vous réfléchi à cela? Voilà comment Dieu s'y est pris. Il est dit dans la parole qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et nous considérons que le léopard, dans cette situation, c'est le méchant. Allez, on va dire ça comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a donné à manger aux méchants. Il a donné la biche. Par là, il a donc répondu à la prière du léopard. Mais la prière de la biche, elle a été bénie davantage. Puisque qu'est-ce que réclamait la biche? La biche réclamait « Permets que je vive ». Eh bien, elle a vécu. Dieu lui a dit « Je te donne la vie éternelle. Aujourd'hui, tu seras à mes côtés pour toujours. » Est-ce que ce n'est pas une belle réponse, ça? Aujourd'hui, c'est la fête des mères, c'est vrai. Et en tant qu'homme, je suis ravi de pouvoir mettre plus largement les femmes à l'honneur. En disant ceci, que malheureusement, depuis des siècles, voire des millénaires, le don de la femme, à cause de la tradition des hommes, a été écrasé. La femme a toujours été considérée comme inférieure, voire dans certaines sociétés, esclave. Et c'est l'histoire qui nous raconte. Récemment, avec Magda, on a regardé Titanic. C'est pas si vieux, Titanic, hein. C'était en 1912, 14, je ne sais plus. Eh bien, on voyait déjà encore à cette époque comment la femme était sous-estimée et vue comme une personne secondaire. Et je dis, mais Seigneur, mais quelle injustice! Vous vous souvenez, la semaine dernière, quand on a dit, quand Jésus reprochait aux pharisiens, il disait, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est à cause de la dureté de notre cœur que nos femmes ne sont pas mises suffisamment à l'honneur encore aujourd'hui. Vous voyez, moi, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est comment je peux me l'approprier aujourd'hui. Comment je peux la contextualiser dans ma vie. Et quelle ne fut pas la lâcheté d'Adam quand Madame Ève prit effectivement le fruit la première et la donna ensuite à Adam. Et quand tous deux se rendirent compte de la grande faute qu'ils venaient de commettre aux yeux de l'Éternel, Dieu arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Adam répond, c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. Elle m'a manipulé. C'est à cause d'elle. Je suis désolé, mais moi je l'entends comme ça. Hein. On se défait de toute la responsabilité d'homme que nous sommes pour dire que c'est à cause de ma femme que tu as mise à mes côtés. Si vous voulez le passage exact, ça dit comme ça. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est ainsi que c'est écrit. Sous-entendu, c'est à cause d'elle. Mais quelle lâcheté, Adam! Mais comme tu es lâche, quand je dis ça, je dis, jamais je ferais ça à Magda, même si elle avait tort sur quelque chose, ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire c'est à cause de Magda. Non, je prendrais sur moi en fait. J'espère que tous mes chers frères ici feraient de même. Amen. Ah ouais, tu vois, semblait aussi. Mais alors, pourquoi toutes ces interprétations qui découlèrent de l'orgueil de l'homme, tous ces siècles passés. Pourquoi toutes ces interprétations en ont fait une prison et une injustice pour la femme? Lorsque nous lisons en Genèse 3, il est dit ceci, en parlant de Dieu par la Ève, il dit « Ton désir se tournera vers ton mari et il dominera sur toi. » Allez, nous, on a l'Esprit de Dieu en nous. On peut poser la question, Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est ta volonté, ô Dieu? Ton désir se tournera vers ton mari et il dominera sur toi? Ou est-ce plutôt l'avertissement que Dieu donnait à l'homme des conséquences qu'auraient, que vont avoir sur leur relation, la consommation du péché? Est-ce qu'il n'est pas en train d'avertir des conséquences? Ou est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'était sa volonté? Est-ce que Jésus ne dit pas « c'est à cause de la dureté de votre cœur » mais il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi au commencement. Est-ce que Dieu n'était pas en train de les avertir de ce qui allait se passer à cause de la dureté du cœur de l'homme? Et il est important de comprendre la différence pour connaître mieux le cœur de Dieu. Au départ, il nous est dit en Genèse 1, verset 27-28, « À l'homme et à la femme, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » À qui Dieu s'adresse-t-il? À l'homme seulement? Non, à l'homme et à la femme. Il dit, « Faisons l'homme à notre image. » Mais de quel homme parle-t-il? De l'homme seulement? Ou de l'homme avec un grand H? Est-ce que ce n'est pas de l'humanité dont on est en train de parler? Puisqu'après, il ajoute faisons-les hommes, mâles et femelles, hommes et femmes. Donc il s'adresse aux deux. Il est en train de donner la mission à l'homme et à la femme. Amen. Les amis, je me suis noté, méfions-nous de ce que nous entendons, de ce qui sort du contexte et de ce que l'esprit de justice veut nous enseigner. Ces derniers temps, j'ai été amené à parler souvent de est-ce que la femme peut enseigner, qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet. Et écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez. Mais moi, je me rapproche du cœur de Dieu. Et je dis, ô Dieu, n'est-il pas permis à ma femme, ce matin, ne lui était-il pas permis d'enseigner? Est-ce que vous avez été béni parce que Magda a dit? Est-ce qu'on se serait privé de ça? Ô Dieu, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux punir la femme au point qu'on la fasse se taire, nous les hommes? À cause de notre orgueil, à cause de quoi? De la dureté de notre cœur. Alors, écoutez, faites comme bon vous semble. Tradition pour tradition, croyez-y si vous voulez que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Moi, je sais ce que je crois. Et je me tourne vers le cœur de Jésus-Christ pour en connaître, en tout cas, une partie de la réponse. Jésus fera un reproche aux pharisiens qui étaient des hommes de loi et qui aimaient interpréter les Écritures et parfois même les arranger un peu à leur sauce. Et il leur dira en Matthieu 15, verset 3, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Pour moi, ce passage résume parfaitement combien l'homme est orgueilleux au point de placer sa tradition au-dessus de la loi de Dieu. Ce passage résume à lui seul la dureté du cœur de l'homme et comment elle se manifeste concrètement au milieu de nous, encore aujourd'hui et depuis des siècles. Nous tordons la loi de Dieu, nous tordons initialement le cœur de Dieu pour le soumettre à la dureté de notre cœur et en faire des traditions d'hommes. Mais ce n'est pas moi qui le dis, vous voyez, c'est Jésus qui parle et qui fait un reproche aux pharisiens. Comment se peut-il qu'une telle dureté de cœur ait pu empoisonner l'humanité tout entière? Et que ces traditions, ces habitudes injustes et méchantes aient pu traverser les siècles? Eh bien, il n'est pas à prouver que nous avons un ennemi, l'ennemi de nos âmes, qui cherche par tous les moyens à nous détourner de notre vocation originelle et qui, par le moyen de la tentation, nous fera tomber et nous éloignera du but que Dieu nous a fixé, à savoir Jésus. Et comment s'y prend-il? Il s'attaque à nos besoins charnels. Et voilà comment il va détourner la vérité dans chacune de nos vies. Il va venir pointer les besoins fondamentaux, ces besoins fondamentaux qui diffèrent d'un homme à un autre, d'une société à une autre. Et il va venir pointer du doigt quelque chose. Et je voudrais qu'on parle de l'exemple qui nous est donné lorsque Jésus fut tenté dans le désert. Il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Et après avoir jeûné, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim. Et que fait l'ennemi? Il a attendu que Jésus soit vulnérable parce qu'il avait faim. Il y avait une sorte de vulnérabilité liée à un besoin fondamental que ressentait Jésus à cet instant, celui de la faim. Et il vient lui dire, le diable vient en fait profiter de cette situation et il vient proposer à Jésus une option facile, simple et immédiate qui viendra répondre de manière rapide et efficace au besoin qu'a Jésus de manger. Imaginons un instant ce qui se serait passé si Jésus avait succombé à ce péché, à cette tentation. Il ne se serait rien passé du coup. Il n'aurait pas pu aller à la croix. Et maintenant, imaginons du coup ce qui se passe toutes les fois où nous succombons à la tentation. Toutes les fois où nous succombons à la tentation, nous nous privons nous-mêmes des bénédictions qui auraient dû découler de notre obéissance, mais nous privons aussi tous les autres des bénédictions qui auraient dû découler de notre obéissance. Toutes les fois où nous succombons à la tentation, nous nous privons des bénédictions pour nous et pour les autres, ce que Jésus n'a pas fait. Et vous avez vu la bénédiction qui en a découlé derrière. Par là, je veux dire que, imaginez toutes les bénédictions dont l'humanité tout entière s'est privée durant des siècles en enfermant la femme dans ses traditions et en la faisant taire, en ne lui permettant pas d'ouvrir son cœur et d'y déverser sur nous les dons qu'elle avait. Imaginez l'humanité tout entière, durant des millénaires, qui s'est privée du don qui était en la femme. Parce que l'homme était trop dur de cœur pour reconnaître que la femme était son égale. Pourquoi les hommes particulièrement, et les femmes aussi, pourquoi une telle dureté de cœur? Que s'est-il passé dans nos vies pour qu'encore parfois aujourd'hui on soit soumis à tous ces mauvais désirs, à toutes ces mauvaises pensées? Pourquoi? Et là, je voudrais vous mettre un extrait de film qui m'a extrêmement parlé, moi, personnellement. Et je vous donne un court résumé. Ce film, c'est Will Hunting, pour ceux qui connaissent. Et c'est l'histoire en fait d'un jeune homme très intelligent, avec un QI particulièrement élevé, qui va grandir au sein d'une famille dysfonctionnelle, dont le beau-père le battra. C'est un jeune homme qui était donc battu dans son enfance et qui dira souvent à son beau-père qu'il le confrontera directement pour que son beau-père en fait évite d'aller frapper ou battre sa mère. Il dira non. Il allait lui d'abord. Il faisait en sorte que son beau-père passe ses nerfs sur lui et non sur sa mère. Le jeune homme grandira comme ça. Et un beau jour, il sera confronté à un de ses professeurs qui verra en lui un espoir et un cœur. Et je pense qu'on peut mettre l'extrait. Est-ce que, mon ami, tu peux éteindre les lumières, please ? Alors, soyez attentifs. Vous allez entendre des bip, bip de temps en temps parce que ça dit des gros mots.
Je dois le renvoyer au juge avec mon appréciation.
Hein ? Et vous n'allez pas me coller, hein ? Ça dit quoi ?
Tu veux le lire ?
Pourquoi ? Vous avez déjà eu une expérience de ce genre ?
En 20 ans d'assistance, oui, j'ai vu pas mal de choses horribles.
Non, je voulais savoir si vous aviez déjà vécu ça.
Personnellement ?
Oui.
Oui, je l'ai vécu.
C'est assez moche.
Mon père était un alcoolique. Un d'ivrogne. Il rentrait à la maison, pété, prêt à taper sur n'importe qui. Alors je le provoquais pour qu'il s'attaque pas à ma mère et à mon frère. Sympa les soirées quand il portait ses bagues.
Ouais, il entrait, il posait une clé à molette, un bâton, une ceinture sur la table. Et il disait, choisis.
Au choix, je préfère la ceinture.
Choisissais la clé à molette.
Pourquoi ?
Pour le faire ch***, c'est pour ça.
Ton père adoptif ?
Ouais. Alors, ça donne quoi ? Will présente un désordre affectif, ce genre de truc. Peur d'être abandonné. C'est pour ça que j'ai rompu avec Skylar.
J'étais pas au courant.
Ouais, j'ai rompu.
Tu as envie d'en parler ?
Non.
Hey Will, je sais pas grand-chose. Mais tu vois ça, toute cette merde. C'est pas ta faute.
Oui, je le sais.
Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute.
Je sais.
C'est pas ta faute.
Oui, je sais.
Non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute.
Je sais.
C'est pas ta faute.
D'accord.
C'est pas ta faute. C'est pas ta faute.
Pas avec moi.
C'est pas ta faute.
Pas avec moi, d'accord. Avec moi, je... pas toi.
C'est pas ta faute.
C'est poignant, n'est-ce pas ? C'est pas ta faute. Eh oui. Nous grandissons. Parfois dans des familles dysfonctionnelles. Ou parfois nous vivons des choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu pour nos vies. Mais nous en subissons les conséquences. et nous grandissons avec ses conséquences. Et pire encore, nous sommes les premiers, évidemment, concernés, mais sans le vouloir, notre entourage, du coup, notre entourage pâtit de ce que nous sommes. Et à l'image de ce professeur, Dieu vient. Encore ce matin, dans ta situation, il vient pour te dire que ce que tu es, ou les dysfonctionnements que tu vis encore dans ta vie, Dieu vient te dire, je sais ce que tu as vécu, je sais où tu es passé, par où tu es passé, je le sais, ce n'est pas ta faute. Le péché a une emprise telle sur ce monde que Satan, par tous les moyens possibles, essaiera de nous éloigner du cœur de Dieu, par tous les moyens possibles. Et sans le savoir, nos propres parents, nous héritons des choses puissantes de nos propres parents parfois. Nous sommes liés par des choses qui viennent de nos parents, qui viennent eux-mêmes de leurs parents et qui se transmettent de génération en génération. Des choses qui sont enfouies au fond de nous, mais qui, croyez-moi, se voient bien depuis l'extérieur. Et un mauvais caractère, dit-on, une insensibilité, on fera le raccourci pour dire, ben c'est ainsi. Je suis comme ça, c'est mon caractère. Oh, croyez-moi que vous avez été influencé à un moment donné dans votre vie et que ceci n'a pas été réglé. Croyez-moi qu'un mauvais caractère, c'est quelque chose qui est enfoui au fond de vous et qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été mis à la lumière. Parce que notre organisme humain, aussi bien fait qu'il l'est, fera en sorte d'oublier ces choses. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. On est traumatisé par des choses de notre passé que nous enfouissons au fond de nous. Vous vous dites, mais Christ n'a pas déjà tout accompli à la croix ? Évidemment qu'il l'a fait, c'est là notre espérance. Mais pourquoi alors une telle dureté de cœur encore ? Pourquoi alors on a autant de difficultés à voir les choses telles que Dieu les voyait à l'origine ? Car, dit-il, il n'en était pas ainsi au commencement. Les amis, je vais vous laisser là-dessus. Et j'aurais aimé qu'on ait un temps de prière. Parce que je suis sûr, au fond de moi, qu'il y a des choses en chacun de nous qui méritent d'être mises à la lumière. Des choses dont on doit parler. Puisqu'il n'est pas juste que l'humanité, que notre entourage soit privé des bénédictions qui sont directement liées à qui Dieu, à ce que nous sommes en Dieu. Il n'est pas juste que nous soyons nous-mêmes privés de ces bénédictions à cause de choses que nous aurions subies. Est-ce que la louange ? C'est ainsi que de gloire en gloire nous avançons. Par la grâce de Dieu. C'est ainsi que de gloire en gloire, un jour après l'autre, il viendra mettre à la lumière des choses qui nous concernent pour sa gloire. C'est ainsi que, dans certaines saisons de votre vie, Dieu mettra en lumière des choses qui vous concernent pour les mettre à la surface, pour que vous puissiez lui en parler et dire « Ce n'est pas juste ce que j'ai vécu. Ce n'est pas ma faute. Oh Dieu, ce n'est pas ma faute. » Ce péché, ce n'est pas ma faute. J'ai manqué de toi étant petit. J'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'affection. Pardon, ce n'est pas ma faute. C'est simplement le péché qui m'a submergé. Pardon, ce n'est pas ma faute. Mon père n'était pas assez attentif avec moi. Et tu vois, Seigneur, tout ce qui a découlé sur ma vie. Et Dieu te dit, ce n'est pas ta faute. Ce que ton père n'a pas fait, ce n'est pas ta faute. Mais moi, je viens restaurer aujourd'hui. Moi, je viens prendre la place de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur, d'un voisin, d'un professeur, d'un ami, ou plutôt d'un collègue de quand tu étais jeune, dans la cour de récréation, qui a prononcé une parole sur ta vie, sur toi, et que tu as pris cette parole comme acquis, tu t'es dit, c'est ainsi que je suis. Non, ce n'est pas ta faute. Pourquoi on fait ça ce matin? Pourquoi, ô Saint-Esprit, on parle comme ça ce matin? Parce que je n'ai plus envie d'être privé des bénédictions. Je n'ai plus envie de me priver. Je n'ai plus envie de priver mon entourage des bénédictions qui sont les miennes. Et il y a une nouvelle naissance en Jésus-Christ qui nous permet de vivre ces choses et de s'approprier à nouveau cette nouvelle naissance. Je suis en Christ, il est en moi. Et par lui, pour lui et en lui, je vis. Toutes ces choses qui sont derrière moi, ce n'est pas ma faute.